beaucoup, Cécile Mérieux. Rendez-vous à 8h pour le prochain point sur l'actualité. Louis Dauphresne, votre grand témoin ce matin, est le métropolite Emmanuel de Calcédois, l'ancien métropolite orthodoxe de France. Il travaille désormais aux côtés du patriarche Bartholomée, le patriarche écuménique de Constantinople.
Oui, il y a beaucoup de raisons de se parler cette année avec le monde orthodoxe. Il y a bien sûr la fête de Pâques qui est commune, et puis il y a le concile de Nicée 325 qui va être célébré à partir du mois de mai. C'est d'ailleurs le seul voyage pontifical qui est inscrit encore à l'agenda, avec évidemment des pointillés, compte tenu de la santé du pape François. Message d'unité des chrétiens donc en cette année 2025, je suis heureux de recevoir Emmanuel Adamakis, ou métropolite Emmanuel de Calcédoine, évêque du patriarcat orthodoxe de Constantinople. Bonjour Éminence.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous Merci expliquez vous. Votre pensée, vos réflexions dans un ouvrage paru aux éditions du Cerf qui s'appelle « Libre enfant de Dieu ». Peut-être peut-on faire le point en premier lieu sur cette année 2025 qui se présente sous les meilleurs auspices du point de vue du rapprochement avec les catholiques, un rapprochement qui a déjà été engagé depuis un certain temps avec le pape François. Puis vous, vous avez une longue expérience puisque vous étiez en France pendant une vingtaine d'années. Vous avez fait des études aussi à Boston, aux États-Unis. Vous êtes resté 6 ans. Et puis vous avez également été à Bruxelles pendant 16 ans à la tête de la conférence des églises européennes, ce qui vous a donné un poste d'observation appréciable. Alors quel regard portez-vous sur ces mois qui se présentent, ce profil ?
Merci beaucoup de me donner la parole. Et merci aux auditeurs. Tout d'abord, bon, cette année, effectivement, c'est une année jubilaire pour l'Église catholique, mais c'est aussi une année pour le 17e, on commémore le 17e centenaire du Concile de Nicée, le premier concile œcuménique. Et alors, effectivement, c'est aussi l'année où, accidentellement, nous avons Pâques en même temps, ce qui n'arrive pas très souvent. Donc, effectivement, le voyage du pape à Nicée, c'était le seul voyage pendant cette année. On prie pour sa santé et on prie que le voyage aura bien lieu. Bon, les célébrations ont déjà commencé, on a plusieurs colloques, et donc des séminaires, des conférences qui seront organisées. Mais évidemment, ça serait très bien qu'on puisse se mettre d'accord sur la date de Pâques commune.
De manière définitive ?
Je pense, oui. Et le pape, il était d'accord dans cette perspective. Il m'a dit, ça fait déjà 2 ans, il m'a dit, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est déjà Paul VI qui l'avait dit à l'époque, que si les orthodoxes ont une date commune, nous n'avons pas de problème à les suivre.
Paul VI qui avait entrepris un voyage resté fameux.
Oui, la rencontre avec le patriarche de Nagore en 1964, et cette ouverture qui a donné aussi par la suite la levée des anathèmes de 1054. C'était toute une nouvelle période qui a commencé pour le dialogue écuménique, et notamment entre les deux églises, Rome et Nouvelle Rome, Constantinople.
Éminence, le patriarche Bartholomée Ier est d'accord avec cette idée que pape soit commune.
Absolument, absolument, tout à fait.
Qu'en est-il des autres parties du monde orthodoxe ?
Ben écoutez, non, tous, je peux vous dire que dans des réunions où on a posé la question, étant donné que ça ne pose pas un problème pour les églises orthodoxes autocéphales, puisqu'on ne va pas créer un schisme dans l'église orthodoxe encore pour un changement des dates de Pâques, mais je pense que ça serait vraiment une bonne initiative si on arrive à définir et se mettre d'accord sur une date commune.
Que représente le concile de Nicée ?
Bah, écoutez, c'est le premier concile qui a eu lieu, convoqué par un empereur, comme c'était le cas à Byzance, évidemment. On se trouve au 4e siècle, il y a beaucoup d'hérésies, évidemment, à cette époque, et notamment l'arianisme. Alors, c'était une nécessité d'avoir un concile. Et le concile a eu lieu en 325, où il y avait des évêques qui sont venus de tous les coins du monde connus à l'époque. Et là, ils ont aussi décidé donc, de faire cette première article du Credo. Donc c'est ça, si vous voulez, le plus important du Concile de Nicée.
Le Credo de Nicée-Constantinople.
Voilà, absolument. Ce sont quand même, ce sont les premiers articles qui ont montré donc que le Christ, la deuxième personne de la Trinité, était de la même nature que le Père.
De quoi, Monseigneur Emmanuel, de quoi pouvez-vous discuter, voudriez-vous discuter avec le pape François?
Écoutez, c'est pas moi, mais enfin
ou le patriarche, le monde orthodoxe, oui, je personnalise.
Oui. Écoutez, tout d'abord, nous sommes je pourrais dire, en parlant de sa sainteté, le patriarche Bartholomé et le pape François, ce sont deux figures prophétiques de notre temps. Puisqu'ils ont pris des décisions et ils se sont mis d'accord sur plusieurs sujets, notamment la question de la protection de l'environnement. Les encycliques, d'ailleurs, du pape le montrent bien qu'il y a une référence pour le patriarche Bartholomé, quand il parle de mon frère Bartholomé. On ne revendique pas, évidemment, mais c'est sûr que l'Église orthodoxe, dans ce sens de la protection de l'environnement, était pionnière, donc depuis les années 90.
Un exemple de ce caractère pionnier.
Écoutez, on a déjà en 90 convoqué des séminaires, des congrès pour soulever la question de la protection de l'environnement qui n'était pas peut-être à l'époque très à la mode, mais qui s'avère aujourd'hui que c'est nécessaire et tout le monde parle. Au-delà aussi de l'accord de Paris et des conférences internationales, on voit comment nous, on doit sensibiliser les gens que nous ne possédons pas cette terre, mais nous la gardons pour la préserver pour les générations à venir.
Monseigneur Emmanuel, ça c'est un point commun avec le tropisme du pape François, avec le pontificat du pape François, cette question de l'environnement. Quel regard portez-vous sur la manière dont le pape François a appréhendé la crise ukrainienne?
Écoutez, vous savez que la crise ukrainienne, qui a commencé il y a pas uniquement les 3 ans de guerre, mais nous avons eu déjà en 2014, avec l'annexation de Crimée, déjà les débuts d'une crise, d'une friction avec Moscou, notamment le patriarcat de Moscou, mais aussi l'État de la Fédération de Russie. Donc ça nous interpelle. Je sais que le pape, il s'exprimait aussi sur la question et l'inquiétude de cette guerre, puisque effectivement, on peut pas dire que c'est une guerre bénie. On ne peut pas bénir une guerre contre un pays.
Comme l'a dit le patriarche Kirill.
Oui, absolument. Donc, on ne peut pas, en tant que leader religieux, se porter pour une guerre. Donc, nous, on se réserve quand même, et ça, on est tous conscients, et nous sommes aussi très reconnaissants au pape pour la position qu'il a prise, pour ses mots, pour cet triste anniversaire du 3e anniversaire de la guerre d'Ukraine. Et on est tous conscients que le pays est quand même détruit. Ça prendra beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour reconstruire le pays. Et aussi, au-delà de la reconstruction, il faut penser à la reconstruction dans le sens humain et la réconciliation, puisque c'est un grand pays avec beaucoup de perspectives au-delà des minerais qui sont revendiqués actuellement.
Dites-nous si le patriarche Kirill et le patriarche Bartholomé se parlent.
Écoutez, on n'a pas le patriarcat œcuménique n'a pas coupé les liens avec le patriarcat de Moscou. C'était une décision du patriarche Kirill, de l'église du patriarcat de Moscou, de couper la commémoration, d'arrêter la commémoration du patriarche Bartholomé et de tous les autres qui ont commencé à reconnaître l'église orthodoxe d'Ukraine en 2019. Donc, c'est une...
La rupture vient de Moscou.
La rupture vient de Moscou. Le patriarche Bartholomé, il continue à prier pendant la liturgie, quand il célèbre, aussi pour le patriarche Kirill. Et nous continuons à voir aussi la porte entrouverte pour un dialogue, puisque sans dialogue, on ne peut pas aller plus loin.
Éminence, c'est une appréciation un petit peu personnelle que je voudrais vous faire partager. Est-ce qu'on peut dire que les orthodoxes regardent un petit peu trop vers la terre, vers l'identitaire, la réalité du pouvoir terrestre, et puis un petit peu trop aussi vers le ciel, c'est-à-dire une réalité mystique atemporelle, une réalité cosmique qui détache un petit peu l'esprit des réalités du monde terrestre? Est-ce qu'il y a ces deux extrêmes dans le monde orthodoxe qu'il y a moins dans l'Église catholique, par exemple?
Oui, bah, vous savez, il y a l'épître du Hognette, donc un texte du 1er siècle, qui parle, demande qui sont les chrétiens. Alors, la réponse est que les chrétiens sont des gens comme tous. Ils vivent sur terre, mais ils vivent dans le monde sans être du monde. C'est très important de penser que nous ne sommes pas des extraterrestres, les orthodoxes et les chrétiens en général. Mais nous vivons avec nos pieds sur terre, mais aussi avec une perspective d'au-delà. Donc, notre vie, ce n'est pas une... On n'entre pas en tant qu'orthodoxe dans l'Église, puisque on est saint. Mais on rentre pour devenir saint. Donc, le devenir, c'est important, et ce n'est pas l'aspect de la sainteté, puisque si chacun... Pensez à ça, le monde serait meilleur.
Monseigneur, le fait que les patriarches orthodoxes soient suspectés dans un regard occidental d'être toujours soumis au pouvoir, en particulier soumis au pouvoir du tsar, hein, si on considère surtout la Russie, ça, est-ce que vous dites que du point de vue théologique, il y a quelque chose ou institutionnel à revoir, à restaurer, à reprendre, que le Concile de Nicée, pourquoi pas, et cet anniversaire peut essayer de faire advenir une autre conception, un autre rapport au pouvoir? Et est-ce que cette guerre en Ukraine aussi est l'occasion de détacher le spirituel du temporel?
Oui. Non, c'est-à-dire, il y a évidemment une influence de l'Empire byzantin, de l'Empire donc romain d'Orient, où l'empereur jouait un rôle très important. On n'a plus d'empereur, évidemment. C'est pourquoi même le Saint Grand Concile a été convoqué par sa sainteté, le patriarche œcuménique Bartholomé. On n'a pas cherché à avoir un empereur qui pourrait convoquer le concile. Et donc, ceci montre qu'on n'est pas lié vraiment à un pouvoir temporaire. D'ailleurs, vous savez que nous ne revendiquons pas l'identité d'un État. Le patriarcat œcuménique n'est pas un État, dans un autre État. Donc, nous sommes contre cette position. Et je comprends ce que vous dites, mais je pense que les églises orthodoxes, elles sont bien conscientes, puisque dans la plupart des cas, donc, il y a une séparation de pouvoir entre par exemple, l'État et l'Église. Donc, les églises ne sont pas églises d'État. C'est vrai qu'en Grèce, il y a une exception pour ça. L'Église est mentionnée dans la Constitution, et aussi, c'est une des rares constitutions où on fait mention de Dieu. trinitaire. Donc, c'est, mais dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas généraliser que pour l'Église orthodoxe, il y a tellement d'interférences de la part de l'État. Bon, à Russie, on voit ce paradoxe, notamment les dernières années, où il y a vraiment le deux pouvoirs, de, si je pourrais dire, de l'aigle bicéphale par rapport au président Poutine et au patriarche Kirill. Ce n'était pas le cas, certainement, aussi visible avant.
C'est une singularité du moment.
Absolument, absolument.
Et qui ne caractérise pas systématiquement toutes les entités orthodoxes.
Oui, pas du tout.
Un dernier mot très rapide. L'Union européenne, aujourd'hui, vous avez été à Bruxelles pendant de nombreuses années. Vous estimez que c'est un interlocuteur extrêmement important ?
Absolument. Vous commencez, je ne peux pas faire beaucoup de commentaires hein, sur ce que le président Trump a dit à propos de l'Union européenne. Mais même si on est Trump, on peut se tromper. Alors, c'est sûr que l'Union européenne avait un rôle, a un rôle et aura un rôle de l'avenir, puisque c'est une nécessité.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monseigneur.
Merci.
Métropolite
Merci
Emmanuel, libre enfant de Dieu aux éditions du Cerf pour retrouver votre réflexion. Je rappelle que vous avez occupé divers postes à l'échelle internationale, en particulier en Europe, et que vous êtes aux côtés du patriarche Bartholomée Ier. Merci beaucoup et je vous souhaite Merci. Une bonne journée.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Louis Dauphresne. On vous retrouve à 9h10 pour le débat du jour. Aujourd'hui, c'est à partir de 9h10 et jusqu'à 10h. Bienvenue sur RCF et Radio Notre-Dame si vous venez de nous rejoindre.